France Culture.
Et c'est l'heure de retrouver le journal de la rédaction, journal présenté par Mathilde Dansker. Bonjour.
Bonjour Antoine, bonjour à toutes et à tous. La violence politique aux États-Unis à la une ce midi, un an après la tentative d'assassinat de Donald Trump. Les menaces envers les élus du Congrès ou leurs proches augmentent. Nous serons à Washington dès le début de ce journal. Reportage aussi en Syrie où des femmes craignent pour leur liberté 7 mois après la prise de pouvoir des troupes rebelles menées par des islamistes. Et puis, dans quel état est l'armée française, sommes-nous prêts à faire face aux menaces? On se posera la question alors qu'Emmanuel Macron doit s'adresser aux armées ce soir. Dans le reste de l'actualité, cela fait aujourd'hui 60 ans que les femmes ont le droit d'ouvrir un compte bancaire sans l'autorisation de leur mari. Une loi qui a acté le début d'une série de réformes, nous l'entendrons. Enfin, on vous emmène au Pérou où une cité vieille de plus de 3500 ans rouvre ses portes au public. L'image a fait le tour du monde. C'était il y a un an, jour pour jour. Souvenez-vous de cette photo, Donald Trump, l'oreille en sang, le poing levé, un drapeau américain en fond. Le président des États-Unis était alors candidat en plein meeting en Pennsylvanie, visé par une tentative d'assassinat alors que la campagne présidentielle battait son plein. Un événement qui n'a pas vraiment servi de déclic, à en croire les chiffres. Les violences contre les élus sont en nette augmentation aux États-Unis. Le mois dernier, une élue démocrate du Minnesota a été assassinée chez elle. En 2024, la police du Capitole a recensé plus de 9400 menaces visant des membres du Congrès ou leur entourage. C'est une hausse de près de 140% par rapport à 2017. Le reportage à Washington d'Ajera Mohamed.
La bascule s'est opérée entre 2020 et 2021, à la fin du premier mandat de Donald Trump, analyse Thomas Zetzoff, professeur à l'American University de Washington. Il travaille depuis des années sur les violences politiques.
2020 a été un gros pic de violence. Il y a eu les manifestations anti-Covid, celles de Black Lives Matter et l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021. On a vu depuis une montée des violences contre les élus.
Des élus victimes de cyberharcèlement, d'agressions verbales ou physiques lors de réunions publiques ou de campagnes diffamatoires. Des violences encouragées désormais par une partie de l'élite du pays.
Les gens qui encouragent cette violence sont les MAGA, les chrétiens nationalistes, une élite très riche qui a une certaine vision du monde.
Et ces Américains-là peuvent compter sur Donald Trump pour les défendre.
L'attaque du Capitole, c'est énorme. Et tous les participants étaient graciés par Trump, même ceux qui ont agressé des policiers. Le message qu'il envoie à ses supporters, c'est « Même si vous faites quelque chose d'illégal, je vous pardonnerai. Ne soyez pas inquiet. » C'est vraiment très préoccupant.
Le président américain a totalement inversé les valeurs, conclut cet universitaire, au point de décourager certains élus locaux. Ils sont de plus en plus nombreux aux États-Unis à démissionner.
Reportage signé Ajera Mohamed. Partons maintenant en Syrie, où l'université de Damas fourmille de vie. Plus de 7 mois après la chute de Bachar al-Assad et la prise de pouvoir par des troupes rebelles menées par des islamistes. Mais malgré la chute du régime, de nombreuses femmes redoutent aujourd'hui ces nouvelles autorités islamistes, ainsi que leur influence sur la liberté des femmes dans l'espace public. En Syrie, notre correspondant Mohamed Erami.
À Damas, des pancartes non officielles appellent à la piété. On murmure des lois qui n'existent pas, interdisant par exemple les shorts. C'est dans ce climat que nous avons rencontré Fatima, une étudiante sunnite.
Moi, avant la chute du régime, en tant que femme sunnite, j'avais vraiment peur. J'évitais de prendre des taxis et on était vraiment surveillés par les services de renseignement qui étaient partout à Damas. Mais maintenant, j'ai plus du tout peur. Je me sens libre et je sors même avec mes copines entre filles le soir. Il y a de la joie et les rues sont même pleines.
Un sentiment d'apaisement qui contraste avec l'expérience de Sarah, confrontée à une autre réalité.
Il y a une pression sociale pour que les femmes portent le hijab et adoptent une tenue conforme au code religieux. Cette pression, qui n'existait pas auparavant, ne repose pas sur des lois, mais elle est bien réelle. Par exemple, lorsque je prends le bus en tant que femme non voilée, je crains pour ma sécurité. Comme je ne corresponds pas à ces normes, je préfère rester chez moi la plupart du temps et je limite mes sorties.
De réalité à Damas, d'un côté une confiance retrouvée, de l'autre une liberté individuelle qui s'étiole, entravée par la crainte du jugement. Ces voix illustrent les défis des jeunes femmes dans un espace public en pleine mutation.
Reportage à Damas de Mohamed Erami. Kim Jong-un assure à la Russie son soutien inconditionnel dans la guerre contre l'Ukraine. Le dirigeant nord-coréen a reçu hier le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov. Les deux pays resserrent leurs liens militaires et diplomatiques après avoir signé l'an dernier un pacte de défense mutuelle. Pacte qui s'est notamment traduit par l'envoi de milliers de soldats nord-coréens dans la région de Koursk. Et puis l'Élysée promet des annonces majeures. Emmanuel Macron doit s'exprimer ce soir lors d'un discours aux armées. Le président parlera des efforts de défense auxquels il faudra seulement lui consentir face à l'aggravation des menaces. Et dans ce contexte, une question ce midi, dans quel état sont les armées françaises aujourd'hui? Réponse de Stéphane Audran, il est historien et officier de réserve dans la marine.
Les armées françaises ont gardé un format à peu près complet, mais avec beaucoup d'échantillons. On sait un peu tout faire, mais avec très peu, souvent, d'effectifs. Ce qui était suffisant pour une époque où on faisait de la projection sur de la gestion de crise ponctuelle. En revanche, là, il y a à la fois ce besoin qu'a identifié le ministre d'innover dans les technologies de rupture, et puis un besoin de reconstruire un certain socle pour durer. Donc, ça veut dire de refaire des stocks de munitions, ça veut dire peut-être d'avoir une ou deux frégates en plus, quelques rafales en plus. C'est pas forcément des très gros besoins d'effectifs de lanceurs ou d'avions, mais d'avoir plus de stocks humains aussi, plus de gens formés. Il y a des besoins de recrutement de militaires d'actifs qui sont pas énormes, effectivement, alors 10, 15 000 personnes peut-être. Et puis, il y a des besoins de recrutement de personnel de réserve. Et là, c'est plus 50 000, 60 000 réservistes de plus.
Stéphane Audran, interrogé par nos collègues de France Info. Gisèle Pellicot et l'historienne Mona Ouzouf recevront la Légion d'honneur demain. Les deux femmes font partie de la traditionnelle promotion du 14 juillet. Au total, 589 personnes seront récompensées. C'était il y a seulement 60 ans. Jour pour jour, les femmes obtenaient le droit de signer un contrat de travail et d'ouvrir un compte bancaire sans l'autorisation de leur mari. Un droit inscrit dans la loi donc du 13 juillet 1965. Un texte qui met fin à cette incapacité juridique qui datait du code de Napoléon et réduisait les femmes à un statut de mineur. Cette loi, c'est aussi le premier acte d'une série de réformes qui allait ensuite transformer la famille et accélérer l'émancipation des femmes. Entretien avec Irène Théry, sociologue du droit et directrice d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, signée Julie Pacaud.
Bonjour Irène Théry.
Bonjour.
Alors dans quel contexte politique et social d'abord intervient cette réforme des régimes matrimoniaux?
Alors c'est un contexte qui est assez calme, on va dire, du point de vue des transformations de la famille. On est les années 60, bien avant les grands bouleversements des années 70. On n'imagine pas d'ailleurs ce que seront ces bouleversements. Et on est encore, je dirais, dans l'horizon du Code Napoléon de 1804. C'est quoi le Code Napoléon de 1804? C'est des idées très simples. Un, le mariage est le socle de la seule vraie famille. En dehors du mariage, pas de famille. Deux, le mariage, c'est ce qui avec deux ne fait qu'un. Et cette unité, elle est assurée par la complémentarité des rôles masculins et féminins, à chacun son rôle. Le mari doit protection à sa femme, la femme obéissance à son mari. Et donc, cette unité de mœurs et de patrimoine, de ce couple qui avec deux ne fait qu'un, elle est assurée par le fait que ce tout est dirigé par le mari, qui a à la fois la puissance paternelle et la puissance maritale. C'est ça l'origine de l'incapacité juridique de la femme mariée. Les années 60, paradoxalement, ce ne sont pas des années très féministes. Donc, en 65, on n'avait pas le sentiment qu'on allait vers des grands bouleversements, vous voyez, des mœurs. On voulait surtout moderniser le mariage. On disait, on voulait éviter les excès, des choses qui paraissent vraiment injustes, comme des hommes qui empêchaient leurs femmes d'exercer un commerce alors qu'elles souhaitaient le faire. On voulait corriger des excès, mais on s'est aperçu avec le recul qu'en fait, on avait engagé en fait, le début d'immenses changements pour les femmes et pour les couples.
Et de quelle manière c'est cette loi du 13 juillet 1965 qui inaugure une série de bouleversements?
Elle inaugure deux sortes de bouleversements. D'abord, elle inaugure vraiment ce qu'on pourrait appeler la modernisation du mariage. Ça, c'est les années, si vous voulez, où la droite libérale est au pouvoir. C'est d'abord Pompidou qui est chef du gouvernement, après il y aura Giscard d'Estaing. Mais tout ça se fait dans l'accord des partis politiques. Il y a un consensus pour l'idée qu'il faut moderniser le mariage en introduisant plus de liberté et plus d'égalité, sans remettre en cause l'idée que le mariage est le cœur de la famille, qu'avec deux ne fait qu'un et tout ça. Il y a la réforme de 70 qui supprime la puissance paternelle et la remplace par l'autorité parentale. Voyez, donc on entend bien que maintenant c'est dirigé par les deux. Il y a la réforme de 72 qui va être très importante, égalité des enfants naturels et légitimes comme principe. Donc on sort complètement d'un monde où, vous savez, les enfants de parents non mariés, c'était des bâtards, c'était des parias sociaux. Et donc là, on dit principe d'égalité entre tous les enfants. Et puis après, encore en 75, modernisation du mariage par le divorce par requête conjointe. Ce qui est très nouveau, en fait, c'est qu'on s'apercevra assez vite que cette première loi de 65, elle inaugure aussi une autre série de réformes qu'on n'avait pas vraiment anticipées, qui n'est plus la modernisation du mariage, c'est l'organisation du démariage. Et donc là, on va voir se succéder tout un ensemble de nouvelles réformes très importantes qui vont organiser l'égalité entre les familles qui reposent sur le mariage et celles qui ne reposent pas sur le mariage. Et puis surtout la filiation hors mariage qui va être organisée exactement à égalité.
Alors malgré ces grandes avancées, est-ce que vous diriez qu'il existe aujourd'hui une forme d'empreinte de ce code Napoléon 1804 dans notre droit civil ?
Écoutez, ces derniers temps, on a eu le sentiment quand même qu'on avait liquidé tout ce qui pouvait rester de cette conception très hiérarchique des sexes où il y avait vraiment une domination masculine. Bon, on a reconnu par exemple la possibilité du viol conjugal en 90. La Cour européenne récemment a rappelé à la France qu'il n'y avait pas de devoir conjugal. Voyez, et donc, c'est tous les débats récents sur le consentement au cœur de la relation sexuelle. Donc là, on a l'impression que tout ce qui restait vraiment d'une conception très traditionnelle a disparu. Il y a quand même un domaine où vraiment on est encore sous l'emprise du code Napoléon. C'est tout ce qui concerne, on va dire, les couples non mariés face au vieillissement et à la mort. Quand arrive le décès, qu'est-ce qu'il découvre ? Que le survivant n'a droit à aucune réversion. Et ça, c'est quand même quelque chose de très important. Celui qui a cotisé toute sa vie, eh bien, s'il était marié, il va laisser au survivant ou à la survivante une pension de réversion. Ou ils vont s'apercevoir qu'ils se sont paxés, par exemple, en disant « on se paxe, nous, on ne reste pas en union libre ». Sauf qu'ils vont s'apercevoir que s'ils n'ont pas fait un testament, eh bien, le paxé, il n'est pas héritier de son conjoint paxé. Donc là, on reste vraiment sur une vision matrimoniale à l'ancienne. Et je pense qu'avec le vieillissement aujourd'hui des générations, on va s'apercevoir d'injustices qui sont vraiment criantes. Là, c'est un domaine sur lequel il est temps d'ouvrir le débat public.
La sociologue Irène Théry au micro de Julie Paco. Enfin, pour terminer ce journal, je vous emmène au Pérou. Le Pérou qui découvre une cité vieille de plus de 3500 ans. Elle ouvre ses portes au public après des années de fouilles. Pénico, c'est son nom, était un lieu d'échange entre le Pacifique, les Andes et l'Amazonie. Cette ville florissait à la même période que les premières civilisations d'Égypte ou de Mésopotamie. Pour les archéologues, c'est une découverte majeure. Alors, Martin Chabal nous emmène à la découverte de cette cité millénaire.
Les ruines de Pénico ont ouvert leurs portes aux touristes après 8 ans de fouilles archéologiques. Sergio voulait être parmi les premiers visiteurs.
On devrait tous être fiers de cette ville. Pierre revient ou non, parce que ça fait partie de l'histoire du monde.
En effet, Pénico, c'est une ville héritière de la plus ancienne civilisation du continent, la civilisation Caral. Et pour les archéologues, Pénico est l'un des chaînons manquants pour comprendre cette civilisation. Ruth Chadi est l'archéologue qui a déterré la ville de Pénico.
Ce qui est très intéressant avec Pénico, c'est qu'elle a prospéré après une période de changement climatique.
Pour elle, la découverte de cette ville est une preuve que la société a su s'adapter à une période de sécheresse extrême il y a plus de 3000 ans. Le tout en laissant la guerre au profit des échanges culturels et économiques.
Nous n'avons pas trouvé d'armes sur le site que nous fouillons, pas d'armes et pas non plus de murailles.
L'ouverture de la cité au public n'est qu'une étape pour Ruth Chadi. Cet archéologue renommé et expérimenté compte bien faire encore des découvertes sur le terrain pour comprendre encore mieux la plus ancienne des civilisations du continent américain.
Reportage de notre correspondant au Pérou, Martin Chabal. Enfin, la météo pour aujourd'hui. Un temps globalement ensoleillé. Quelques nuages au bord de la Méditerranée qui pourront parfois se transformer en averses. Sur le nord du pays, on aura des nuages bas dans le nord du Pas-de-Calais, de la Bretagne et de la Normandie. Mais partout ailleurs, du soleil. Pour l'après-midi, les nuages pourront se faire plus menaçants en Corse et en PACA. De la pluie et des nuages du Massif central aux Alpes et au Jura. Côté température maximale, comptez 22 à 27 degrés sur les côtes de la Manche et l'Atlantique, entre 28 et 33 degrés sur le reste du pays et localement jusqu'à 34 dans le nord-ouest. Il est midi 45 presque sur France Culture. C'est la fin de ce journal préparé avec Alison Vicrobeck. À la technique aujourd'hui, Olivier Arnet.